OK, c'est la dernière fois qu'on vous en parle d'ici vendredi parce qu'on veut pas vendre la mèche. Mais on est en train de comptabiliser tout ce qui s'est passé dans les dernières minutes. Et Audrey, on a du pain sur la planche.
Bien, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui veulent faire des déclarations d'amour. Ce qu'on va accepter, saupoudrer, ça peut être super le fun. Il y a des gens qui me parlent de possibilités de demande en mariage. Évidemment, là, ça va être une question de ça te choque-tu, ça te choque pas. Là. C'est, ouais. On va rester réaliste.
Mais là, on en a plus qu'une.
On en a plus qu'une. Okay. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a aussi des fournisseurs qui nous écrivent. Des fournisseurs dans un mariage, t'as le photographe, t'as le
mixologue. Mais là, tu pars en business ou quoi?
Bien, je me pars pas en business, mais ce que je trouve hot, c'est que dans les textos, ce qui revient beaucoup, c'est « Hey, j'aimerais tellement ça me marier, on en rêve depuis longtemps, mais on n'a pas les sous. » Fait que je trouve comme ça fou de voir qu'il y a des gens qui nous écrivent pour nous dire « Hey, moi, si vraiment quelqu'un fait la demande en onde, je vais être le photographe. Hey, ouais, moi, je vais faire telle affaire. »
Attends un peu, là. Si on fournit le photographe puis l'animation, faut rester ensemble au moins 10 ans, là. Fait que pensez-y comme faut, OK? Sans ça, on va demander des remboursements, nous autres.
Mais je trouve ça vraiment hot. Fait que je prends tout ça en note. Il est encore temps jusqu'à la fin du show si vous avez le courage, puis on va organiser ça ensemble.
Y a-tu quelqu'un d'autre qui veut faire la grande demande vendredi? Véro?
Denis?
T'es-tu fou, toi?
Denis, ça fait quand même 10 ans que vous êtes ensemble.
J'y demande à toutes les semaines, puis c'est tout le temps non, là. Je veux dire, maintenant.
C'est une demande pour vrai toutes les semaines.
Pas toutes les semaines, sérieux. Là, mais comment ça, je suis pas
c'est
sérieux?
C'est sûr, t'es pas sérieux.
De toute façon, tantôt, on va reparler avec Alex Leblon, notre planificateur financier, puis la semaine passée, il a dit que le pire contrat que tu pouvais signer dans une vie, c'était un contrat de mariage. C'est moi, vrai. J'écoute quand tu parles.
C'est quand même vrai. C'est vrai, hein? On peut parler du patrimoine familial et du régime matrimonial.
Est-ce que t'es romantique?
Non, mais c'est ça.
16h48. D'ailleurs, parlant de Leblon.
Hey, kids! Vous êtes prêts pour votre leçon de finance et fiscalité?
Je vous demande de vous arrêter.
Ben, voici Alex Leblon.
Si c'est moi qui officie le mariage, je vais te faire venir en première partie puis t'expliqueras toutes tes statistiques sur le contrat de mariage pour mettre de l'ambiance un peu dans la cérémonie. Là.
Ben, c'est même pas des statistiques. Puis, oui, il y a des statistiques, mais je suis pas obligé de sortir les statistiques. L'idée, c'est juste, OK, oui, t'as la cérémonie, mm-hmm. C'est le jour 1.
Oui.
Après ça, le code civil embarque. C'est là où, OK, tes régimes de retraite, la maison qui sert au bien de la famille, les véhicules qui servent au bien de la famille, tout ça est partageable à 50 %. Puis ça, c'est pas la seule affaire.
Bon.
T'as le régime matrimonial aussi, que tout ce qui n'est pas régi par le patrimoine familial est régi par le régime matrimonial. Puis ça, tu peux faire un choix. Il y en a un qui fait plus mal que l'autre, là. Mais celui qui est par défaut, c'est celui qui fait le plus mal. Fait que ça veut dire que tout ton salaire, tout ce que tu gagnes, en date d'aujourd'hui, t'as 100 % de ça, d'un point de vue légal. Le lendemain, t'as 50 % de ça d'un point de vue légal. Fait qu'il faut, je te dis pas de pas le faire, mais il faut, au-delà de la cérémonie, il faut comprendre cet engagement-là puis agir en conséquence après.
Vous aurez compris que Alex Leblon n'est pas planificateur de party, il est planificateur financier.
Ouais.
Hein? Et aujourd'hui, ben justement, là, parlant d'amour avec la Saint-Valentin qui approche et ainsi de suite, ben tu viens de le montrer aux gens, là, tu filais romantique toi aussi là.
Absolument.
Ouais.
Avez-vous déjà fait des dépenses de Saint-Valentin en vue de samedi?
Ah oh, ben oh, cette année non, pas encore.
Non. Fallait-tu que j'en fasse?
Ben, on va venir au chiffre de ça tantôt, justement par rapport au split homme-femme, là, mais savez-vous c'est quoi la facture moyenne de Saint-Valentin là, pour 2025? Fait que l'an passé, les données les plus récentes, là, en moyenne, ça a coûté combien?
Par couple?
Par couple. Souvent, ça sort d'une poche, là, mais par couple.
Ben là, mettons, un souper au resto, c'est quand même rendu pas pire cher. Mettons qu'une bouteille de vin, mettons que t'es à 200, genre le bon souper au resto, mettons que t'as acheté une rose, genre 250, mettons, ouais. Moyenne.
OK, les autres?
J'allais à 200-225, là, à peu près.
Ça, je ne peux pas croire que c'est au-dessus de ça.
Ça va être au-dessus de ça.
271
$ canadiens. OK, c'est bon. C'est
précisément.
Bon.
Fait qu'Audrey, tu étais vraiment pas loin. Fait que oui, généralement, ça va être un super resto qu'on pèse un peu plus à la pédale que d'habitude. Là. Il y a un sondage de TD cette semaine, puis il y a un paquet d'autres statistiques que j'aime ça ramasser pendant l'année, puis sortir à peu près dans ce temps-ci de l'année, là, quand on parle de Saint-Valentin.
Oui.
J'ai le goût qu'on les fasse une par une, puis... il y a des affaires intéressantes, des affaires qui sont propices à la discussion là-dedans. Le sondage qui a été fait par TD, fait que c'est fait auprès de Canadiens. Là. C'est pas un sondage... Parce que des fois, les sondages américains, on est un peu différent. Là. L'aspect religieux, justement, vraiment. Est plus développé là-bas. Fait que des fois, sur la famille, l'argent, les finances, c'est un peu différent. Là, c'est un sondage canadien. les conclusions sont intéressantes. Tout ce qui est la notion de secret financier, là, garder un secret financier...
Ça me trouble, ça!
Ben, c'est parce que ça dépend c'est quoi un secret financier. Il y a 33% des répondants au sondage qui disent que, d'une manière ou d'une autre, ils gardent un secret financier versus leur partenaire.
Ça, c'est-tu une carte de crédit maxée? C'est-tu une gigantesque dette? C'est-tu une richesse qu'ils disent pas? On le sait-tu?
C'est un petit peu de tout ça. Les chiffres là, par rapport à c'est quoi les secrets financiers les plus répandus. La première, c'est ton premier guess, là, une dette. Une dette secrète, pas nécessairement qui a été contractée dans le but de faire de quoi dans le dos de l'autre, mais juste parce que, hey, Karim, j'ai cette dette-là, j'ai cette carte de crédit-là qui est maxée. Elle ne sait pas qu'elle existe, mais je dois 12 000 dessus.
Ou encore, je me mets dans la peau de quelqu'un qui n'a pas eu le choix de faire une consolidation, une faillite, puis là, il est en couple, il va falloir qu'il aille faire une demande de crédit pour une maison. J'imagine que ça peut rentrer là-dedans aussi. Là.
Exactement. On parlait des régimes matrimoniaux. Il y en a des fois qui vont jouer un petit peu sur les règles. Mm. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est dans un régime de retraite et partageable selon le patrimoine familial? Un REER, c'est un régime de retraite. Un CELI, ça n'en est pas un. Oh. Fait que des fois, de cacher certains types d'épargne, sachant que, ça, on le voit, là, souvent dans des plus gros dossiers, là, mais les gens qui, mettons, savent qu'ils s'enlignent vers cette fin-là...
vont être créatifs.
Ils sont créatifs, puis ils commencent à lire, hey, éduquer à loi, c'est intéressant. Oh boy, OK, ça va tout dans ce pot-là. OK, je vais m'arranger en conséquence.
Est-ce que tu as eu à devenir un conseiller post-matrimonial pour des gens qui avaient de l'argent puis qui voulaient commencer à en mettre on the side?
Je l'ai eu, pas à ce point-là. La majorité des séparations que moi j'ai eues, parce que tu sers 100 couples, tu as 66 séparations à gérer. Que ça, c'est inévitable.
Ouais.
Ce que j'ai eu, moi, c'est... la majorité du temps, ça s'est bien passé. Là. C'était le gars, dans ce cas-ci, là, qui essayait de baisser ses revenus pour pas trop payer de pension alimentaire.
Okay.
Il m'a demandé des conseils que j'ai pas donné là, parce que ultimement tu peux pas, c'est à la fois une fraude fiscale et une fraude morale là. Fait que je peux comme pas vraiment t'aider avec
ça, j'ai un petit peu de misère parce que qui dit pension alimentaire dit soins des enfants,
c'est exactement,
là,
c'est pour les enfants
en,
hein. Ouais.
En priorité là, j'ai toujours un petit peu de misère avec ça. Dans les autres statistiques révélatrices, mettons
43% des gens seraient frustrés, ça c'est intéressant, seraient frustrés si leur douce moitié ne ferait jamais de payer la facture. Fait que ça dépend de la dynamique du couple. Des fois, il y en a qu'on paye tout 50-50 quand on sort. Des fois, il y en a que c'est un après l'autre. Des fois, il y en a que c'est toujours de la même poche que ça sort pour une raison ou une autre.
Ça, je pourrais pas vivre avec ça ni d'un côté ni de l'autre. Le 100% d'un bord ou de l'autre, là, je serais incapable.
Si j'ai le goût d'aller au resto, c'est moi qui ai collé la shot, je paye la facture.
Ouais, c'est une bonne idée.
Ouais.
Ça, oui, il n'y a pas de problème, mais je
voudrais pas que ce soit toujours, mettons, mon amoureux qui paie. Je serais vraiment pas à l'aise.
Puis l'inverse, c'est tout aussi plate. Là. C'est tout le temps moi qu'il faut qu'il déplie pour qu'on sorte de chez nous puis qu'on fasse des affaires. Non?
Puis en même temps, ça dépend de tout le monde, comment est-ce que vous êtes organisé. Tu sais, si vous êtes en cellule familiale, qu'il y a une personne qui travaille, que l'autre travaille moins ou travaille pas.
C'est pas la même dynamique.
C'est pas la même dynamique. Fait que c'est ça, là. C'est dur de trouver. Puis il y a des gens qui sont des fois.
Mais les compensations vont souvent se faire autrement. C'est pas nécessairement en argent. Tu sais, il y a une équité qui existe dans les cellules familiales.
Mais je vais te le faire autrement. Tu sais, mettons qu'un gars t'invite au restaurant pour la première fois, puis qu'il te propose à la fin du premier repas de splitter la facture, tu trouves-tu ça insultant?
Ah, c'est moi qui vais le demander en partant.
Ah oui?
Ah oui, si c'est la première date puis tout, là, c'est sûr que je demande le 50-50.
Audrey, première date, on split-tu le bill?
Bien, j'aurais le réflexe de splitter. C'est ça qui est ironique. Si je voulais splitter le bill, j'aurais le réflexe de le demander moi-même. Si le gars le demande, je sais que je le veuille ou pas, ça va me donner une drôle d'impression. Mais moi, première date...
J'ai pas assez de proximité avec la personne.
Ben moi, ça dépend. Si on parle de première date 2026, sur Tinder, on se connaît pas trop, puis ben oui, on sépare la facture, mais si c'est une première date d'amis, tu comprends, puis que cette personne-là m'offre de me payer le souper ou que je lui offre, je serais à l'aise avec ça, mais souvent, le truc, moi, je vais l'apprendre.
J'ai peut-être mal compris comment ça marche, Tinder, mais de ce que j'ai compris, la première date, c'est pas nécessairement un souper au restaurant.
Netflix and chill.
La prochaine statistique, Alex, te met en évidence. J'imagine que c'est pour ça que tu l'as sorti.
Mais attends, juste avant de se rendre là, par rapport à payer la facture, là,
oui.
T'as, par rapport à homme-femme, là, parce qu'il y a un autre sondage qui est sorti, puis ça, c'est dans Forbes là, cette semaine, 78% des répondants pense que dans le cadre d'une first date, là, d'un premier rendez-vous, c'est le gars qui devrait payer 78 %.
Je comprends.
Mais quand on va diviser le résultat, 85 % des gars disent que c'est eux qui devraient payer. Puis seulement 72 % des femmes disent que...
Ah oui?
Fait que tu sais, les gars,
ils tiennent
plus que les femmes, ils tiennent.
Ouais. Moi, j'ai déjà, tu sais, première date, hey, on va splitter la facture, tu sais, la fille qui prend les devants, justement, un peu comme Véro a dit tantôt. Puis je vais attendre qu'elle aille aux toilettes, puis je vais aller régler.
Ouais.
J'ai une tête de cochon. Moi, le premier souper ou la première date... Je tiens à payer.
Ben moi, ma première date avec ma blonde, là, qui ça fait huit ans bientôt, je m'enlignais pour payer, là, puis elle s'obstinait là, pour payer aussi. Puis dans ma tête, c'est comme un signal de ah, « OK, elle a juste pas aimé ça. »
Oh, ouais.
C'est sa manière de dire « scram ». Dans ma tête, c'était ça. Là,
tu me dois rien.
Ben, c'est exactement ça. C'est comme ça mon réflexe. Là. Fait peut-être que les chiffres sont basés là-dessus.
Peut-être.
Le prochain, ça, je le trouve vraiment intéressant. Okay? Puis j'ai vu dans des cas de couple en finances personnelles, des gros enjeux par rapport à ça. Seulement 43 % des gens pensent qu'il devrait y avoir
compatibilité.
Compatibilité.
Oui.
Hey, t'as peur, là.
Être compatible.
Compatibilité comptable.
Comptabilité. T'es compatible. Fait que t'as une
compatibilité.
T'as une compatibilité.
Voilà.
Je suis un homme de lettres.
Non, de chiffres.
Ou plus de chiffres que de lettres.
Un homme de lettres, pas un homme de mots.
Non,
les lettres peuvent être mélangées.
Ouais,
là.
C'est ça. Je comprends pas trop. Là. 43 % des gens pour qui c'est important d'être compatible au niveau des dépenses. Puis ça, là, ça a l'air niaisé au début, OK? Mais moi, j'ai vu deux clients que au début, ils n'habitent pas ensemble. Puis là, soudainement, ça fait un an, deux ans qu'ils sont ensemble. Il y a des grosses frictions par rapport à ça. Parce que juste, là, je te donne un exemple, là, s'acheter un frigo, il y en a pour qui c'est une évidence, tu t'en vas chez magasin X, tu payes 2 500 $, ça finit là. Il y en a pour qui c'est impensable de penser ça. Non? Il y en a sur Marketplace, des frigos, tu payes 200 $, ça finit là. C'est des petits clashs, là, mais qui, accumulés, là, donnent d'énormes différences.
Ben, c'est parce que c'est la vie, hein?
Ouais.
C'est la vie de tous les jours, c'est le quotidien. Si tu t'entends pas sur ce qu'il faut que tu fasses puis ce qu'il faut que tu négocies.
Tu vas en avoir des accrochages, là.
Tu vas cracher assez vite, là. C'est pas le côté le plus romantique d'un couple, mais en même temps, si ça marche pas, le reste tiendra pas, là.
Non, puis dans un couple, inévitablement, puis moi, je le vois souvent en pratique, là, quand on essaie de faire l'exercice budgétaire, puis souvent, on s'entend pas sur la partie épargne versus plaisir. À différents degrés, tu vas toujours avoir dans le couple un dépensier puis un petit écureuil à différents degrés, tu sais.
Okay.
Mais il va toujours en avoir un qui est plus que l'autre. Puis c'est là que ça crée des clashs des fois. Fait que 43 % des gens trouvent ça important, mais dans ma pratique, là, c'est 100 % des gens qui devraient trouver ça important, qui devraient y penser.
Véro, t'es-tu l'écureuil ou la dépensière?
Je suis l'écureuil.
Je ne suis aucunement surpris. Audrey, t'es-tu l'écureuil ou la dépensière?
Je suis quand même dépensière.
Pas surpris non plus.
Elle a plus d'hypothèque, là, mais ses versements sont actuellement sur des sites de commandes en ligne. Là.
C'est pas, non, pas si pire que ça. Là. J'ai un très bon planificateur financier.
Ah oui?
Je peux vous le conseiller. Dans le fond, là, il s'appelle Alex Leblond. Leblond et associé, si jamais ça vous intéresse. Là,
tu l'appelleras quand tu penseras à te marier. Il va avoir des choses à te dire de ce que je comprends. Là.
Leblond associé, par contre, c'est la business de mon père qui est syndic en insolvabilité.
Fait que t'es cliente de son père. En plus, ouais. Parce que là, ça se fait que tu sois dépensière.
Si lui fait mal sa job, ton père va ton père va te ramasser.
Hey, je me sens de mes pieds dans les plats.
Reviens-nous, Audrey, reviens-nous.
Alex, d'autres chiffres?
Ça, je trouve ça, puis je suis curieux de vous entendre là-dessus, parce que ces chiffres-là, tu sais, on est capable de prendre les sondages de 2024, 2023, 2022. De plus en plus de gens, là, maintenant, c'est 24 % des gens qui, mettons, pour une première date, veulent faire des activités qui engendrent peu ou pas de dépenses. Avant, c'était pas tant important, ça. C'était genre 10 % du monde, 15 % du monde. Là, c'est rendu une personne sur quatre pour qui une première date, c'est comme synonyme de garde. Je veux pas avoir la main trop profonde en engrenage, là. Je veux pas dépenser 100 $.
On part pas une semaine en République dominicaine, mettons.
On va aller prendre une marche.
Si, la randonnée est très populaire.
Ouais.
Aimes-tu le hiking?
Mais je suis curieux d'avoir vos opinions là-dessus parce que dans ma tête, une première date, si je dis à la fille on va marcher, j'ai l'air dans ma tête, ça sonne cheap. Là. J'ai l'air du gars qui veut pas dépenser, justement.
C'est peut-être mon côté classique, mais moi, une date, il y a un repas, il y a une bière, il y a quelque chose.
Mixer les deux.
Puis je pense que je suis plus à l'aise ou peut-être que je peux pas. Je me dis, personne ne peut partir en courant ni d'un bord ni de l'autre, mais il me semble que le terrain neutre idéal, c'est le restaurant.
Ouais, mais
ou
tu vois,
la
mais
microbrasserie.
Les premières dates, tu sais, Québec, c'est fantastique pour ça. Moi, j'aime beaucoup faire une activité qui s'appelle le bar hopping. Donc, se promener d'une place à l'autre. Fait que parmi les premières dates, on est allé marcher à Québec, puis on s'arrêtait, puis on faisait des pit stops. Puis j'ai trouvé que c'était un beau mélange des deux.
Mm-hmm. Genre une entrée vert. Je suis plus activité que vert. Je trouve qu'aussitôt que tu es obligé d'avoir des grandes conversations à un moment donné, c'est trop. Puis je dis pas qu'il faut pas parler, là, mais une activité qui fait en sorte, mettons, que si c'est malaisant, ben t'es pas obligé d'avoir une grande conversation.
J'ai peut-être trop écouté de films de Saint-Valentin, mais moi, dans ma tête, c'est restaurant, coupe de vin, puis après ça, peut-être une petite marche au clair de lune, là, si ça va bien, puis ainsi de suite. Puis il me semble que moi, c'est l'ordre, là, dans la normalité des choses.
Mais activité, Audrey, c'est quoi? C'est genre jeu d'évasion, ce genre d'affaire-là?
Oui, genre, ben, le pire, c'est ça, je l'ai jamais fait, là, mais
moi, je l'ai déjà fait.
Ben, peut-être pas les œufs-tags, mais jeu d'évasion. I saut. Mais non, mais c'est que jeu d'évasion, mettons, t'as quelque chose sur quoi te concentrer aussi.
OK.
Fait que t'apprends à connaître la personne, mais j'ai comme l'impression que ce que tu vois, la façon dont la personne agit, là, ça t'en dit beaucoup. Puis moi, je trouve ça moins malaisant que fait que toi, ta famille, vous êtes combien? Puis ouais. Dans la vie, tu... Je préfère ce genre de truc-là vraiment.
Okay.
Tu sais, ou je sais pas, peut-être randonnée, c'est peut-être trop cliché classique, là, mais tu sais, il y a un restaurant dans le noir, là. Bien, ça, tu vois, t'es obligé, ça t'oblige à comme sortir de... Des conversations plates classiques de dating.
Au pire, si c'est plate d'un restaurant dans le noir, t'as juste à changer de table. Ben oui, c'est ça.
Ah, mais un restaurant dans le noir, par contre, ça, c'est...
Ouais. Ben moi, je l'ai déjà fait, puis ce qui est le fun, c'est que t'es tellement déstabilisé par l'expérience que tu parles beaucoup de l'expérience, de la bouffe. T'es mort de rire parce que, crime, t'es pas dans ton élément naturel, là. Fait que ça enlève la possibilité d'un fret ou d'un manque de discussion.
T'as le temps de dater entre tes deux chums?
Arrête!
OK, excuse. Non, c'est bon, c'est de mauvais goût. Je m'excuse. Je suis désolé.
Probablement, quand je l'ai fait, tu sauras que c'était avec des gens que je connaissais déjà et non pas dans un contexte de dating, mais j'ai remarqué que même si on avait voulu se dire beaucoup de choses, on parlait surtout de l'expérience parce que ça nous faisait triper.
Je le faisais pour faire rire Véro, puis manifestement, elle n'écoutait pas.
J'écoutais, mais une fois par jour.
De quoi?
T'as dépassé ton quota de joke dans
elle était très bonne.
L'autre de tantôt était supérieur.
Alex?
Ouais, dernier chiffre, 24 % des gens, ben ça ressemble un peu à l'autre, là, cherchent vraiment un partenaire avec qui ils partagent la même vision des finances. Le défi là-dedans, là, c'est à partir de quel moment tu en parles. Justement, si tu as un sujet de première date, peut-être pas. Sujet de deuxième. Fait que tu sais, souvent, là, ce qui arrive, c'est que quand les gens se rendent compte qu'ils ont des visions drastiquement différentes au niveau des finances, ils ont déjà des contrats signés ensemble, ils ont déjà une hypothèque, puis il est comme trop tard si jamais il faut faire un move là-dessus. Fait qu'encore là, ça, c'est un chiffre que je regarde ça, je dis, hey, crime, moi, j'ai ma déformation professionnelle, je vois tous les cas que j'ai vus dans ma pratique où, crime, les différentes visions des finances ont causé problème. Je me dis, s'il y a 24 % des gens pour qui c'est important, 76 % des gens qui devraient reconsidérer leur réponse, malheureusement.
Écoute, moi, c'est drôle. Les finances, je vois pas ça important, puis j'ai pas le goût de me chicaner là-dessus. Fait que peut-être que je fais de l'évasion en retardant ces conversations-là le plus longtemps possible. Ou je sais pas si c'est parce que je vois pas ça important. Moi, l'important, c'est d'arriver à la fin de la semaine. Puis en même temps, tu te ramasses d'une famille, tu vas investir de l'argent dans une certaine mesure. Le choix des écoles, le choix des activités, le choix de ce que tu fais en vacances. Tu le fais-tu en couple? Tu le fais-tu en famille? La vie te force à avoir ces conversation-là, de toute façon. À 21, 22, pas nécessairement, mais à un moment donné, t'as plus le choix, là.
Ouais, puis là, ça va dépendre aussi. Tu sais, moi, j'ai des clients qui ont un compte conjoint, là, que les deux payent rentrent là-dedans, puis les dépenses, tout le monde voit ce qui se passe. Fait que c'est un pot de commun qui fait en sorte que ben, les dépenses d'un sont les dépenses de l'autre, puis c'est là que ça peut créer de la friction des fois. Si c'est plus une situation où, regarde, t'as un salaire, j'ai un salaire, oui, on paye une couple d'affaires en commun, mais that's it. À ce moment-là, c'est vrai que c'est pas un enjeu. Chacun fait ses propres trucs. Ce qui est propre à un est propre à un, puis ce qui est commun, ben, si on s'entend là-dessus, c'est pas trop stressant pour le reste.
Hey, en closant rapidement, Alex, dans l'actualité financière, il y a des compagnies américaines qui vivent des débuts d'année vraiment atroces en bourse.
Ouais. Tout ce qui est ce qu'on appelle le SaaS, le S-A-A-S.
Ça, c'est quoi, ça?
C'est Software as a Service.
OK. Fait
que pense à une compagnie que ce qu'elle vend, c'est un logiciel.
mettons, Microsoft.
Mon office, là-dedans?
Comment?
Mon office de Microsoft.
Ouais, exactement. Okay. Je peux pas aller chez Bureau en gros puis dire « Donne-moi un Microsoft, mets ça dans le char. » Non, non. Microsoft, c'est un logiciel. Mm-hmm. Ça s'en va dans l'ordi puis ça vit là. Pensez à Intuit, genre QuickBooks. Là. Oui. Je peux pas mettre un QuickBooks, je peux pas y toucher. Là. C'est un logiciel. Là. Fait que ces compagnies-là, avec l'intelligence artificielle, depuis le début de l'année... Là,
on a moins besoin d'elle.
Ben, on a moins besoin d'elle. Puis c'est surtout que le marché, présentement, est comme un petit peu dopé à la notion que toutes ces compagnies-là, tous ces logiciels-là, avec les outils comme ChatGPT, avec les outils comme Claude Code, là, qui est comme le nouveau à la mode, là, essentiellement, à la place de payer à licence QuickBooks, je pourrais juste demander à ChatGPT, fais-moi QuickBooks, puis rien payer, puis j'aurais à peu près la même affaire. Fait que, tu sais, le marché, présentement... Et comme un petit peu a cette notion-là en tête.
Fait que ça ressemble à quoi les chutes en bourse de ces compagnies-là?
Intuit, fait que ça c'est QuickBooks principalement, ils ont d'autres produits, là, mais c'est moins 34% depuis le début de l'année. Je vous rappelle qu'on est le 10 février. Là. Fait que c'est une compagnie qui a perdu le tiers de sa valeur en 5 semaines à peine. Adobe, fait que Photoshop, Acrobat pour les PDF. Probablement que si vous avez un job de bureau, là, Adobe est un compagnon quotidien. Là, moins 23%, fait que le quart de sa valeur en 5 semaines à peine. Puis Microsoft, là, il était moins pire que ça. Il a été pire que ça, là, il a remonté un peu. Là, moins 14% depuis le début de l'année.
Mais à partir de ce moment-là, c'est-tu la panique? Ben, ça va se refaire. Là. C'est des gros noms quand même.
Ben, Microsoft, là, pour prendre cet exemple-là, parce que c'est la plus grosse compagnie là-dedans, là, ils ont toujours eu des problèmes comme ça.
Okay.
Ça fait 100 fois qu'on annonce la mort de Microsoft. Le gros avantage de Microsoft, c'est que tout le monde haït ses Christy de produits, mais personne n'est capable de s'en passer. Pourquoi? Parce que si tu es dans une entreprise qui a 75 000 employés, tout le monde s'entend sur « Ah ouais, Office, c'est de la merde ». Tout le monde est d'accord. Là. Par contre, essaye de changer Office.
Ouais, c'est ça.
C'est impossible. C'est beaucoup trop complexe. Fait que Microsoft, pour te donner cet exemple-là, tu sais, en bourse, là, ce que tu veux faire, là, tu veux investir dans des compagnies qui peuvent contrôler leur prix. Microsoft, vous n'en êtes pas rendu compte parce que vous êtes peut-être employé dans une shop qui utilise Office. Ils ont fait exploser le prix des licences il y a quelques mois à peine. Pas un client qui est parti.
Mm-hmm.
Pourquoi? Tu peux pas partir. T'es pogné là.
T'es fourré.
Fait que, présentement, le marché à court terme est un peu irrationnel. Par contre, il y a un des meilleurs investisseurs de l'histoire là, qui travaille chez Fidelity, qui s'appelle Peter Lynch. Lui, il disait le cerveau, c'est pas l'organe le plus important en investissement. C'est l'estomac, l'organe le plus important.
OK.
Fait que ton cerveau, là, ton cerveau sait que Microsoft, dans 5 ans, va être correct. Dans 10 ans, va être correct. C'est pas trop stressant. Là. Par contre, il faut pas que tu te fasses trop influencer par les allures que ça peut avoir à court moyen terme. Puis par rapport à ça, il y a une étude qui a été faite, je pense qu'on en avait déjà parlé, là, mais de Fidelity aussi, là, sur les différents comportements des investisseurs. Parce que là, depuis le début de l'année, on a beaucoup de volatilité. Autant à la hausse qu'à la baisse. Dépendamment de ce que tu regardes, soit ça fait un méga coup de circuit ou soit ça crache solide.
Okay.
Quand tu regardes la moyenne, c'est pas si pire, mais on a comme deux extrêmes présentement. Puis Fidelity, eux autres, c'est la plus grosse firme privée, là, fait que non bancaire en Amérique du Nord. Puis on fait une étude à savoir, hey, crime, on a des millions de clients. Qui c'est qui fait le plus de rendement là, dans notre boucle? Puis il y a deux catégories de clients qui systématiquement faisaient plus de rendement que les autres. La première, c'est les clients qui étaient morts. Que la succession n'avait jamais réclamé.
Ouais.
Puis il laissait les affaires aller, fait qu'aucun mouvement de transaction.
Ben, la firme de sondage appelait. Hey, on appelle Gérard des placements avec nous autres. Non, Gérard, il est mort, ça fait un an et demi, c'est juste qu'on est en train de régler la succession.
Wow.
Fait que Gérard, quand il apprend ça, là, que Intuit est à moins 34, Gérard est 6 pieds sous terre. Il fait pas de transaction.
Il bouge pas.
Il bouge pas. Puis la deuxième catégorie de clients, c'était les gens qui recevaient l'appel du sondeur. Puis qui se rappelait plus qu'il y avait un compte chez Fidelity. Fait que, on fait une étude, votre compte chez Fidelity, soit il pensait que c'était une fraude, soit il ne savait pas. Fait qu'on s'entend, si tu le sais pas que tu as un crédit de compte, ben quand ça baisse de 10 % tu feras pas de transaction.
Fait que la meilleure idée, c'est d'investir, puis après ça, oublier que tu as investi.
Ben c'est super contre-intuitif. Hein? Mm. Parce que l'investissement est une des rares sphères de notre vie où moins tu t'en occupes, plus tu vas faire des gains. Si je te dis demain, Denis, je veux devenir un champion d'échecs, il faut que je joue aux échecs. Là.
Pas le choix.
Je peux pas m'en sauver. Là. Si je te dis, hey, je veux faire le plus de rendement possible dans mes placements dans les 15 prochaines années, la meilleure affaire que je peux faire, c'est juste supprimer toutes mes applications de placement, mettre une tâche sur mon iPhone dans 15 ans, puis là, je vais avoir fait plus de rendement que l'alternative. Toutes les données nous prouvent ça, mais c'est contre-intuitif parce que tu te dis, hey, je veux prendre mes finances en main,
ben
je
vais
m'occuper, je vais être hands-on. Tu te dis, il faut que je regarde ça de proche.
À toutes les semaines, s'il le faut.
Les clients qui regardent ça de proche. Puis là, il y a comme deux extrêmes. Là. Si tu veux t'y intéresser, intéresse-toi. Mais les gens qui s'y intéressent ont tendance à regarder plus, ont tendance à paniquer quand ça ne va pas bien et ont tendance à faire des moves quand ce n'est pas le temps d'en faire.
Alex Leblond, merci beaucoup.
Merci à vous autres.
Et bonne Saint-Valentin malgré tout.
Malgré tout.
Alex Leblond est planificateur financier. On fait une courte pause, on revient. Il est 17h11.